Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. Ça veut dire, attention, demain, ça va être tendu. Et donc, on pourrait être amené à rencontrer des situations obligeant à couper pendant une heure ou deux heures l'électricité dans certains endroits.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris.
Alors, il va falloir vous habituer au signal rouge, au signal orange qui sera envoyé par la plateforme EcoWatt.
Oui, parce que Olivier Véran, dans la même phrase, dit il n'y aura pas de coupure, mais il y aura des coupures. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est quand même. Cette phrase, il faut l'analyser hein, dans les cours de communication. Téléphone coupé, transport supprimé, école fermée, bienvenue en janvier 2023 s'il fait trop froid. C'est ça la France que nous annonce Olivier Véran et le gouvernement pour démarrer l'année 2023. S'il fait trop froid, un peu plus froid que prévu, eh bien, effectivement, il y aura des coupures d'électricité. Alors, pardon, ce sont des délestages, hein, en termes choisis, qui pourront intervenir 2 heures par jour, soit le matin, soit le soir. Si vous habitez près d'un hôpital ou d'une prison, eh bien, vous êtes chanceux puisque vous échapperez à ces coupures parce que ce sont des établissements qui seront protégés des coupures. D'ailleurs, il y aura sans doute beaucoup plus de coupures dans le milieu rural que dans les villes, parce que forcément dans les villes il y a toujours un hôpital
une prison
à côté, ou une prison ou un établissement de sécurité. En revanche, à la campagne, là on pourra couper. Une circulaire a été donc envoyée au préfet pour mettre en place ce plan de crise. La France, c'est l'ancienne grande puissance, vous vous souvenez, qui exportait du nucléaire, mais depuis 10 ans, eh bien la filière nucléaire française est en déclin. D'ailleurs, le président de RTE disait hier matin, la France sera très importatrice d'électricité cet hiver. On aura besoin de nos amis anglais, allemands. Alors qu'historiquement, la France était très exportatrice parce qu'elle avait un parc nucléaire très gros. Mais ça, c'était avant. Donc, bougies et aussi les piles, hein, parce que quand tu téléphones, parce que le téléphone portable, par exemple, tout le monde a un portable.
Oui.
Qui a encore un téléphone fixe?
Moi, je l'ai plus.
Bah, voilà. Parce que ce qu'on appelle, tu sais, les prises en T murales,
oui,
celles-là continueront de fonctionner grâce au cuivre.
Alors, le problème, c'est que ton portable sera coupé, et si t'as pas de téléphone fixe, plus compliqué quand même de joindre, notamment
donc,
en urgence.
Est-ce que vous avez l'impression, là, de commencer à vivre dans un pays qui se déclasse, qui se dégrade, un pays qui se tiers-mondise? 32-16 pour le dire au GG. Et Thomas, franchement?
Sur beaucoup de points, je trouve que c'est le grand effondrement. Parce que moi, je pense que nos politiques n'ont jamais eu de vision de long terme. En fait, ils pensent que tout se s'autorégule rapidement comme ça. Et alors après, il faut mettre des rustines à droite et à gauche. Mais sur plein de choses, ils ont pas de vision de long terme. Vous regardez par exemple sur les dermatologues. Là, on manque de dermatologues. Il faut parfois 1 an à Paris d'attente. 6 mois à 1 an d'attente. Ben, on savait très bien que la population augmentait. On savait très bien que la population vieillissait et qu'on allait avoir plus besoin de médecins. Mais on a gardé le numerus clausus parce qu'on s'est dit bon, ben, tout va bien. Donc là, il y a un manque d'anticipation. Et là, c'est pareil. En fait, sur la politique énergétique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, on se met dans le solaire. C'est super. Puis, hein, on arrête le solaire. Maintenant, on importe les panneaux solaires de Chine. Puis le nucléaire, on est contre. Puis on est pour. La politique énergétique a besoin d'une vision de long terme. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Aujourd'hui, on a 56 réacteurs. Officiellement, il y a la moitié qui sont à l'arrêt. Donc ça, c'est un problème. Vous savez, l'électricité, quand vous appuyez sur le bouton, ça se stocke pas. Il la faut tout de suite. L'électricité, il la faut tout de suite. Mmh. Donc si vous n'avez pas des centrales qui se mettent en marche pour avoir cette électricité tout de suite, bah il y a un problème. Il y a une coupure d'électricité. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on baisse l'intensité sur le réseau de 5% pour le répartir sur toute la France, et là ça peut fonctionner. Soit on va cibler des coupures à droite ou à gauche. Mais c'est un problème. Moi, je pense de manque de vision. Pourquoi nos réacteurs sont à l'arrêt? Parce qu'il y a la maintenance. Ça, c'est tous les ans. Donc c'est pas la première fois qu'on est dans cette situation. Hein. Il y a certaines années, à 2 degrés près, on était proche du blackout.
Notamment en 2020, puisque Barbara Pompili, c'était avant la guerre en Ukraine, avait dit attention, on aura peut-être des coupures l'hiver qui arrive. Finalement, ça s'était bien passé.
Ces 7 dernières années, tous les ans, s'il fait trop froid, si on passe à 2 degrés, 3 degrés en dessous des normales saisonnières, on est proche de la rupture. Et là, il s'ajoute la guerre en Ukraine, où on manque d'un composant qui est le gaz. Hein. Et ben là, il y a un problème. Parce que vous savez, quand vous allumez en heure de pointe, le problème, c'est ça, à 19h, quand vous annulez, vous appuyez sur votre bouton, il y a une espèce d'ordre de mérite. Ça commence par les renouvelables, l'hydraulique, après c'est le nucléaire, et après c'est les centrales à charbon et à gaz en dernier lieu. Et si vous manquez finalement en haut de centrales à gaz, centrales à charbon, et ben il y a possibilité de coupure. Donc c'est un système qui est très fragile et qui a été fragilisé par des
politiques. Pour bien comprendre le schéma, c'est on va recevoir un message 24 heures ou 48 heures avant, nous disant attention, vous allez être en zone rouge, donc vous allez être coupé et ce seront des coupures.
Il y a une météo d'électricité.
Voilà, de deux heures. On va avoir une carte de France
météo.
De
couleurs. Rouge, jaune ou vert. Pour l'instant, on est au vert.
C'est ça.
Kauter, est-ce que tu as l'impression de vivre dans la France qui se tire mondialise ?
Ben, ça fait longtemps. Enfin, moi, j'ai déjà subi chez moi des coupures d'électricité. J'ai dû dormir à l'hôtel en face de chez moi parce que mon petit et qu'il était malade en plus. Donc, l'hôtel n'est pas coupé parce qu'ils ont des espèces de
générateurs,
générateurs, tu sais, etc. Donc, mon fils avait 2 ans, il en a 12, donc ça fait 10 ans qu'on subit des coupures en fait en France quand il y a un souci. Là, la difficulté, c'est que ça s'intensifie, que c'est sur tout le territoire. Et moi, je suis un peu effrayée quand je vois que ça va aussi concerner les personnes qui dépendent de l'électricité pour leur santé, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même branchées et c'est, leur vie en dépend. Un truc con aussi, tu vois, quand il n'y a pas ton frigo, il y a plein de médicaments aussi qui sont au frigo, il y a des personnes qui sont sous respirateur. Et quand les écoles vont fermer. Enfin, on est en train de fabriquer quoi comme enfants, en fait ? On passe de 2 années Covid, une année où les enfants étaient qu'à contact, ils n'allaient pas à l'école, et là, on va fermer les écoles.
Mais on invente un nouveau confinement, un confinement énergétique,
mais
en fait.
Mais je ne comprends pas comment les Français se taisent et comment ils peuvent accepter ça. Qu'est-ce qu'on fabrique comme enfants demain ? Qu'est-ce qu'on fabrique comme monde ? Comme tu l'as dit, ça ne date pas d'hier. Et moi, je suis absolument épuisée moralement de toujours commenter ici ou ailleurs le manque d'anticipation et le manque de travail et le manque de solutions du gouvernement, en fait. Tu vois, nous dire on va couper l'électricité, moi, c'est encore pas ça que j'attends de nos ministres, de nos porte-paroles et du gouvernement dans sa globalité.
Monsieur Mehdi,
tout d'abord, pour le pays des Lumières, c'est quand même assez, assez exceptionnel qu'on n'ait pas d'électricité, quoi. Enfin, les Lumières sont éteintes. Donc, est-ce que le pays se tire
tiers-mondialise ou tiers-mondise. Tu sais pas quelle est la bonne expression.
Tiers-mondise. S'appauvrisse. On est en train de s'appauvrir. À échelle grand V. Moi, ce qui me fait peur, et je vous le dis, c'est quand Olivier Véran dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il n'y aura pas de coupure. » C'est tout le contraire. Tout ce qu'il a toujours dit, Olivier Véran, toujours, ça s'est passé.
Quand il prend la parole, il faut tout de suite penser le contraire.
Immédiatement. Non mais vous en rigolez. Mais regardez, sur ces 3 dernières années, quand il était ministre de la Santé, maintenant porte-parole, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, vous attendez 1 mois, 2 mois, tout le contraire se passe.
Il ne faut pas parler de l'équipe de France.
Ah non, mais alors si tu dis que l'équipe de France est une très bonne équipe et va être championne du monde, on va se faire éliminer en 8e de finale contre la Pologne. Donc voilà. C'est la seule chose, moi, qui m'embête un peu, c'est que, en fait, même nos...
Donc tu ne crois pas à la parole du gouvernement.
Pas du tout. Maintenant, il y a une chose, moi, qui me fait peur, c'est que notre gouvernement ne sait pas quoi faire.
C'est ça.
Oui. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que...
Il ne peut rien faire, d'ailleurs.
Et c'est quelque chose...
Il faut prier pour qu'il ne fasse pas trop froid.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est prévu en amont. Il n'y a rien qui est prévu pour, justement, essayer de régler ça. On dit que des centrales, il y a beaucoup de centrales qui sont à l'arrêt parce que c'est des manques d'entretien. Il y a des centrales qu'on a mis à l'arrêt délibérément. Donc, on a fait une connerie stratégique. Voilà, Fessenheim, entre autres. On n'a pas de solution. Moi, c'est ça qui me fait flipper, c'est qu'il n'y a pas de solution là, au jour J, au moment même.
On nous demande de faire un peu plus attention, moins de machines,
on le fait par souci d'économie.
Bien sûr.
Pas par souci écologique. On le fait, et les Français le font par souci d'économie, parce que ça coûte très cher. Je te le dis, Olivier, il faut arrêter de croire que les Français sont infantilisés et qu'il faut les tenir avec. Qu'il faut les tenir comme ça, tu sais, avec des discours à 2 balles. Non, les Français le font.
Il y a un spot de com.
Bah oui, mais comme il y avait un spot de com.
Il faut baisser la lumière. Ah ouais, bah,
non, mais un spot de com, tu donnes, excuse-moi.
Alors, qui baisse les ministères.
Rappelez-vous. J'éteins, je baisse et je décale, je crois. Oui. C'est ça.
Mais c'est
incroyable.
La lumière.
Excusez-moi.
Je suis désolé, mais les gens qui payent 50% de plus d'électricité ou soit 50% de plus de gaz, ils n'ont pas besoin d'avoir un spot à la télé pour savoir comme quoi il faut éteindre, baisser et décaler.
Mais avant qu'il y ait cette crise énergétique, il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Et qui n'arrive pas à... Voilà, donc je veux dire, avant même cette crise, la précarité énergétique dans notre pays est une réalité, et elle entraîne, je le rappelle, des moisissures dans les appartements, qui entraînent eux-mêmes des problèmes de santé, des problèmes respiratoires pour les plus vulnérables, à savoir les enfants et les personnes âgées. Donc, ce n'est pas un fait nouveau que les Français ne puissent pas se chauffer en plein hiver dans leur domicile. Ce n'est pas dû qu'à la crise, ce n'est pas dû qu'à l'inflation. Oui, mais... il y a un problème d'accès à l'énergie de manière générale pour les foyers les plus pauvres. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin que tu leur donnes des consignes. Excuse-moi.
Ouais, pardon. Non, c'est moi. Dans les passoires énergétiques, on doit plus chauffer, donc on consomme plus d'énergie pour avoir une température.
Mais ça, effectivement, on aurait pu l'anticiper, faire des grands plans de rénovation thermique qu'on n'a pas fait parce que ça demande beaucoup d'argent. Et effectivement, il faut mettre de l'argent de côté. Il y a aussi un truc quand même que j'ai du mal à comprendre, Thomas. On nous dit. Il faut passer au tout électrique.
Ouais. Hein,
le chauffage, ouais. Mais aussi la voiture. Mmh. Demain, voilà. On ne pourra plus rouler et en Paris sans véhicule électrique.
Ouais, tout à fait.
Bon, il va falloir donc. On se crée des besoins d'électricité qu'on n'avait pas avant.
Téléphone.
Et on nous dit, bah oui, mais pas comme on a plus de besoins, bah forcément, derrière, ça craque parce que ça ne suit pas. On est en retard sur nos plans d'énergie renouvelable. Hein, on est d'ailleurs pointé du doigt parce qu'on est le seul pays européen, je crois, qui n'a pas vraiment. Donc ça, c'est quand même la responsabilité de ceux qui gouvernent.
Le PR a du retard.
Le nucléaire. Tout le monde le dit, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de stratégie sur le nucléaire.
Tout à fait.
On avait Anne Lauvergeon, ex-patronne de la REVA, qui nous l'a dit hier sur le plateau de BFM TV. Elle dit finalement, jusqu'en 2018, on a navigué à vue et puis Macron tout d'un coup a changé d'avis et a dit il faut de nouveau du nucléaire.
Exactement.
Bon bref, donc tout ça effectivement donc il y a toutes ces erreurs politiques et puis derrière on va devant les Français, on leur dit il faut faire des efforts maintenant.
Mais c'est toujours comme ça.
C'est ça.
Alors, c'est pareil pour l'hôpital, c'est pareil pour tout.
Alors on va en parler.
Non, mais vas-y, vraiment,
on va aller dans les Yvelines.
L'énergie, les stop and go, c'est la pire des choses. Stop and go politique, c'est-à-dire un coup c'est le nucléaire, un coup c'est le renouvelable, c'est la pire des choses parce que l'énergie nécessite des investissements de long terme. L'énergie qu'on consommera dans 20 ans, c'est celle dans laquelle on investit aujourd'hui. Donc il faut une stabilité. Mais je tiens à rajouter une chose, c'est que là, vraisemblablement, il n'y aura pas de coupure à Noël. Hein, parce que vous savez, pendant les vacances, Noël et Nouvel An, parce que pendant les vacances de Noël et Nouvel An, il y a une grosse partie des entreprises qui sont un petit peu à l'arrêt, donc, parce que les gens sont en vacances, etc.
L'activité
est moins importante, donc la consommation d'énergie va être lissée. Donc normalement, Noël,
on nous raconte n'importe quoi, parce que j'entendais hier Olivier Véran, le même Véran, se féliciter que ça avait un peu baissé dans l'industrie. Mais pourquoi ça baisse dans l'industrie?
Parce
qu'il y a moins de boulot. C'est une bonne nouvelle.
Bien sûr.
Mais si on est en décroissance, on va moins utiliser d'énergie.
Parce qu'il y a moins de boulot, parce qu'on a des factures très chères. Donc les gars,
on est plus d'industrie, de consommation d'énergie.
Oui, Thomas, on va pas s'en féliciter. Ouais.
Thomas, on est le 2 décembre. RATP en grève, SNCF en grève. Les prix sont en hausse. Hein. RATP, le pass Navigo a doublé.
L'écart à Marseille aussi.
SNCF en grève. EDF, GDF, il y a un blackout. Les prix sont quand même à la hausse. Le carburant, prix à la hausse. Les médecins, prix à la hausse. Et en grève. Les laboratoires, en grève. Prix à la hausse. Nourriture, prix à la hausse.
Et le pouvoir d'achat en baisse.
Et on est le 2 décembre. Hein.
Ouais. On n'est que le 2 décembre.
Joyeux Noël.
Non mais, est-ce que tu
joyeux Noël.
Comment les gens, comment le moral des Français, comment les personnes peuvent être de bonne humeur, en train à justement essayer de faire des... Attends, c'est impressionnant.
On va aller dans les Yvelines avec Mickaël. Mickaël qui est maire adjoint du côté de Bullion. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Vous nous entendez Mickaël? Bon, on va retrouver Mickaël dans un instant. Parce que justement, ça commence même à lui peser sur le moral, tu vois.
Mais ça pèse sur le moral.
Cas ou terre.
Hier, je sors du métro, je suis sur les champs, je vais à l'Olympia.
Sur les Champs-Élysées?
Ouais.
Tu vas à l'Olympia?
Oui.
Tu t'es trompé parce que l'Olympia.
Non, parce que j'allais chercher quelqu'un aux Champs-Élysées et après je suis allé à l'Olympia.
C'est Marseille.
J'étais à la CCI qui est derrière les Champs-Élysées. Parce que le métro t'amène là-bas.
Ils sont toujours approximatifs à Marseille.
Pour un événement autour justement de tout ce qui est énergie de demain, renouvelable, d'environnement, etc. Où il y avait Monsieur de Normandie que je salue et qui nous écoute régulièrement, notre ancien ministre du logement. Que je regrette beaucoup, c'est mon chouchou.
Ah, tu l'aimes bien.
Je le regrette infiniment. Il nous a beaucoup aidé à Marseille. Et c'est bien regrettable parce que c'était quelqu'un qui était utile à la police.
Les meilleurs qui s'en vont.
Exactement. Comme M. Djebari, je vais dire pour le coup, comme Jean-Baptiste, pardon. Ces deux ministres qui ont travaillé. Ceci étant dit, je sors du métro et je vois cette magnifique avenue, tu vois, mais qui est complètement illuminée de superbes lumières. Moi, je trouve que c'est un peu frustrant de dire aux Français, ne fais pas ta machine ou fais-en qu'une par semaine. Et tu sors et cette ville est illuminée de mille feux et c'est merveilleux à voir et c'est bon pour le moral, mais ça coûte aussi de l'argent, non? C'est de l'énergie ou c'est juste.
Ouais, bien sûr.
C'est des faux spots, il faut arrêter de déconner.
Bon, après,
et donc, pourquoi
après
j'étais
la mairie de Paris,
cher
malheureusement.
Alain, si tu me permets, je salue Madame Gisèle Picot, qui est la première femme entrepreneur, la première femme ingénieure à faire un métier d'homme dans cette France d'après-guerre, en 1960. Elle avait été embauchée par M. Bouygues à l'époque, qui hésitait parce qu'il je cite, il craignait qu'en travaillant, elle ne puisse plus satisfaire son mari dans ses besoins premiers. Oui, c'est ce qu'il a dit.
Il est peut-être pas complètement.
Mais en tout cas, cette dame a été la première à recevoir en 1972, donc il y a 50 ans, le prix de l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai été très fière de la rencontrer hier parce qu'elle a remis, elle, du haut de ses 82 ans, le prix à encore une jeune entrepreneure aujourd'hui qui a été récompensée sur la culture.
Dans un instant, Frédéric, dans les Bouches-du-Rhône, Frédéric, justement, oui, elle a l'impression qu'on se tiers-mondialise. Elle se demande aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne correctement dans notre pays. Allez, à tout de suite avec
le prélèvement des enfants.
RMC. 9h30. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Mehdi Ghezard, Kaouter Ben Mohamed avec Thomas Porcher. On discute de cette France qui s'apprête à affronter un hiver, sûrement un hiver de coupure d'électricité.
Rude.
On se demande si la France n'est pas en train de se tiers-mondialiser. C'est Frédéric qui va en parler avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
De Châteauneuf-les-Martigues, Frédéric.
Hey, une voisine. Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Merci.
Alors, ma chère Frédéric, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que la France se déclasse, se dégrade, se tiers-mondialise?
Je suis inquiète et en colère, vraiment.
Pourquoi?
Parce que j'ai, moi, des exemples dans ma vie personnelle, dans tous les domaines. Par exemple, l'éducation nationale. L'année dernière, mon fils, 970 heures de cours, 170 de profs absents non remplacés. Sur une classe de 6e, c'est scandaleux.
Oui.
Et pourtant, on est dans un endroit un peu privilégié. Donc, on n'est pas en zone en ZUS ou quoi que ce soit.
Mais l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Hein.
Et ça, je l'avais pointé, j'ai même fait une chronique sur ça aussi l'année dernière. Mon fils était en 6e aussi.
Et ensuite, la santé. Mon père a été hospitalisé 3 fois dans un hôpital public. Ils n'ont pas fait une radio du poumon qui aurait permis de le sauver.
Pourquoi?
3 fois. Ben parce que ça coûte trop cher, la radio. Eh oui.
Non, mais c'est pas possible.
Donc l'école, l'hôpital.
Et maintenant l'électricité, vous êtes prêt pour cet hiver, Frédéric?
Ah ben moi je suis full électrique, donc du coup, ben, si jamais on coupe l'électricité, je peux ni manger, ni
qu'est-ce
saler.
Qu'est-ce que vous appelez, pardon, full électrique? C'est-à-dire vous avez des convecteurs?
Je n'ai que de l'électricité dans ma maison.
La cuisine, etc.
Comment
les,
ouais. J'ai pas de gaz, moi aussi j'ai pas de gaz, je suis comme vous, j'ai tout électrique.
Moi aussi.
Voilà, tout électrique.
Ah, oui, on nous a poussé à passer au électrique. Le problème donc, c'est qu'on n'a pas dit aux Français que derrière ça ne suivait pas.
Ben exactement.
Et vous êtes inquiète, Frédéric?
Ah, mais je suis complètement inquiète, parce qu'en plus, on est là, on se rend compte avec la crise en Ukraine, on nous la sert à toutes les sauces, hein, pour l'augmentation de tous les prix. Mais on est hyper dépendant de tout le monde,
alors,
sauf de nous, quoi.
Pardon, l'Ukraine n'a rien à voir avec l'électricité, hein.
Strictement rien à voir.
L'Ukraine, c'est le gaz. Mais l'électricité, c'est notre propre production nucléaire qui nous fait défaut, et comme on n'a pas assez d'énergie renouvelable, éolien
c'est une défaillance
solaire, et bien parce que
on a misé sur le gaz, donc
il y a une électricité qui est fabriquée au gaz.
Non, mais c'est une défaillance stratégique, c'est une défaillance stratégique gouvernementale, madame. C'est
pas
à chaque fois qu'il y a un problème en France depuis à peu près un an, on dit que c'est de la faute de l'Ukraine et du conflit russo-ukrainien. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qui se passe actuellement, ce blackout programmé, parce que moi j'appelle ça un blackout programmé. Parce qu'ils ont beau nous dire non, ça, il va pas avoir de blackout, il va pas avoir de délestage, il va avoir un blackout en janvier, à la moitié du mois de janvier, il va commencer à avoir des coupures d'électricité.
Je suis complètement d'accord avec vous.
On est quand même dans
un pays. Il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est pas du tout du fait de la guerre en Ukraine. Pas du tout.
Ça, c'est
voilà.
Le prétexte qu'ils prennent.
Ça, c'est un prétexte parmi un bon nombre d'autres prétextes.
Par contre, à côté de ça, on est censé être un producteur d'électricité au travers de nos centrales qui sont toutes arrêtées.
À moitié, ouais.
Voilà. Vous achetez des bougies, c'est bon.
Et des lampes torches.
Achetez-vous plein, déjà bougies, des piles.
Non, à la rigueur des.
Vous pouvez écouter des grandes gueules sur le transistor.
Voilà.
Frédéric, je vous remercie d'avoir été avec
du
nous.
Bois, mais est-ce au qu'on milieu est
pas,
du salon.
Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une espèce de jeu?
On déleste.
Ça y est, attention les amis, nous on déleste aussi, voilà, on baisse.
Si vous n'êtes pas sur MC Story, on vient de faire un test grandeur nature d'une coupure en janvier. Voilà, on continuera l'émission, mais il n'y aurait plus de lumière.
Je
suis pas sûr que les micros.
Vous savez, on rigole. Mon fils a été hospitalisé la semaine dernière, et donc bon, je dors 3 jours à l'hôpital avec lui. Et quand je vais chercher une machine, un café, tout ça, etc., et des sucreries parce que j'allais m'effondrer, les couloirs de l'hôpital étaient noirs. C'est-à-dire qu'il y avait que l'aile où il y avait des patients. Mais quand tu es allé où il y avait les machines, tout ça, etc., les salles d'attente, bon, c'est assez angoissant, même si tu sais que tu es en sécurité. Donc, t'as des gens qui jouent le jeu, tu vois, et notamment les hôpitaux. Mais t'as des ailes qui peuvent pas être coupées. Moi, je salue Pierre, là, qui vient de subir une intervention du cœur, tu vois, qui nous regarde, qui m'a envoyé un message. T'as des patients. Salut Pierre et
bon
rétablissement et bon courage à toi, parce que tu viens d'être opéré. Il va rester quelques mois à l'hôpital, tu vois. C'est pas une opération c'est une opération qui a duré 9 heures quand même, tu vois. Il y a des gens dont la vie dépend vraiment de l'électricité, au-delà de notre confort. Et là, on en parle, on en débat de manière...
Mais t'es pas mal dans la pénombre, Calter. Hein, je regarde, là, sur MC.
D'ailleurs, vous m'avez pas dit que j'avais un amoureux secret à la SNCF. C'est les auditeurs qui m'ont appelé pour me le dire.
On va en parler.
Et non, mais on
est en train d'organiser les festivités.
C'est-à-dire que même dans le sombre, comme ça, je reste mystérieux et je... Oh là là, mon Dieu, ce qu'on voit. Non, mais blague à part, la vie des gens en dépend.
Mais bien sûr, on est d'accord.
Mais, voilà. mais les hôpitaux sont épargnés, hein, faut le dire.
Tout clignote, regardez, tout est. Ah, ça y est.
Oui, mais les hôpitaux sont épargnés. Mais quand il va rentrer chez lui, ce monsieur, il va avoir des soins qui dépendent de l'électricité. C'est ça que je veux te dire.
Mais Kauter, Thomas et Mehdi, est-ce qu'on n'est pas quand même en train là de dramatiser la situation? Tu vois, c'est-à-dire on est en train de nous faire le scénario du pire, parce que je reprenais un peu les propos qui ont été tenus par les uns et les autres. Tu vois, on dit attention, côté transport, certains trains métro ou tramway pourraient être annulés, interrompus, mais c'est pour éviter d'avoir des passagers qui seront bloqués sur les voies. Donc on vous préviendra de façon à ce que vous puissiez vous organiser et ne pas prendre le train ou le tram. Tu vois, donc en fait, on est en train de nous faire
l'ascenseur,
à la fois le scénario du pire et en nous disant on travaille entre et puis s'il y a pas de coupure ou très peu, on dirait voyez. On a tout anticipé et merci, vous nous avez écouté, vous vous êtes bien.
Non, mais
vous
c'est
êtes
pas vrai, on est déjà dedans. Ce matin, j'ai mis 1h30 pour venir au lieu de 40 minutes et depuis
ça,
hier.
Ça, c'est pas un problème d'électricité.
Non, c'est un problème qui, en fait, entre les deux stations, il y a toujours un problème de régulation du trafic.
Oui, mais
il y a
ça, c'est
toujours...
parce qu'on manque de personnel, qu'on manque de chauffeurs et autres, tu vois.
Oui, mais on est déjà, excusez-moi l'expression, dans la merde par rapport à plein d'autres problèmes. Tu mets déjà le double de ton trajet habituel. On n'est pas tous comme Mehdi enroulés en super grosse voiture, complètement
dépendants. Alors, on va aller dans les Yvelines, retrouver Mickaël. Bonjour Mickaël.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour à vous tous.
Ça y est, vous êtes là. Vous êtes maire adjoint, la commune de Bullion, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et bah oui, Kauter a bien résumé. On est déjà dans la merde en fait. On est déjà dans le tiers monde en fait.
Pourquoi?
Bah vous pouvez prendre un bus, c'est 1h30 d'attente. Vous n'avez pas de bus. Vous regardez autour de vous les déchets. Je pense que plus rien n'est géré. Il y a des déchets partout, des dépôts sauvages. Paris, c'est devenu abominable. Vous allez à l'hôpital, vous traînez, vous êtes assis sur une chaise. Moi, j'ai eu le cas il y a 2-3 ans, déjà en arrière, où mon fils, en urgence, s'est retrouvé avec le masque respiratoire en plein milieu des urgences, avec des personnes qui toussaient à côté, qui saignaient, etc., etc. Vous, en fait, dans tous les corps de métier, et en tant qu'élu, mais les communes sont livrées à elles-mêmes. Les petites communes rurales, nous, c'est 2000 habitants, mais c'est le pire monde. On n'a plus de sous, on n'a plus rien. Nos bâtiments, ils datent de Mathusalem. Ils sont même pas en double vitrage. Ils sont même pas isolés. Non, on est déjà dans la... je pense que Kauter a bien résumé.
Mais comment est-ce possible dans un pays où il y a quand même des prélèvements très importants d'impôts, donc il y a de l'argent public disponible?
Mais parce que je pense que soit il est mal utilisé, soit il est mal orienté, ou des gens en profitent, une petite partie en profite pour beaucoup d'autres.
Et peut-être les trois?
Ou peut-être les trois, exactement, voilà. Tout à fait. Mais c'est une aberration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans une commune, on est à la recherche du moindre euro. On n'a plus un euro.
Mais vous, par exemple, vous êtes maire adjoint, donc vous allez devoir aussi vous mobiliser si en janvier il y a des coupures d'électricité. Hein.
Ah mais exactement. Mais ça nous inquiète parce que nous, on est une commune rurale divisée en hameaux. Donc c'est déjà compliqué. Et pire que tout, on est encore en zone blanche, nous, au niveau téléphonie.
Ah merde.
Donc voilà. Et pourtant, une commune des Yvelines.
Ah oui, en région parisienne, les Yvelines, c'est à 20 bornes de Paris. Hein.
Un peu plus. Mais vous avez tout à fait raison. Et on est en zone blanche. 80% du territoire n'est même pas couvert par la 4G, même pas la 3G. Donc, effectivement, on a l'impression d'être entièrement. On n'en a pas de transport en commun, il n'y en a plus. Les bus, c'est 1/2 parce qu'il n'y a plus de chauffeurs.
D'ailleurs, je trouve ça assez injuste parce que là, on nous explique que la ruralité sera plus touchée que les villes par ces coupures d'électricité parce qu'il y a moins de sites sensibles. Donc, en fait, la campagne, c'est toujours la double peine ou la triple peine.
Mm-hmm. Eh ben exactement, mais si on veut aller par là, si on parle de professions qui souffrent, puisqu'on parle de tiers mondialisation, nos agriculteurs aujourd'hui n'arrivent même plus à se nourrir et à sortir un salaire. On a l'impression qu'on est redevenu 2 siècles en amont.
Et qu'est-ce qui s'est passé justement ces 30 dernières années pour qu'on en arrive là? C'est intéressant.
Alors vas-y,
C'est quand même intéressant parce que par exemple, on peut prendre les agriculteurs. Les agriculteurs, au début, on voulait avoir une souveraineté alimentaire et tout. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, les marchés français ne suffisent plus, il faut aller chercher d'autres marchés. Donc on a orienté toute l'agriculture à l'exportation. Dans les pays de l'Est, en Afrique. Et au début, on était très contents parce qu'on était les meilleurs. Et puis après, les émergents sont arrivés, ils ont cassé les prix. Et maintenant, on est moins contents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les exploitations agricoles, soit ont disparu, soit ont grossi de plus en plus. Elles ont produit de plus en plus, elles ont augmenté en productivité. Mais au même moment, les agriculteurs se sont appauvris. Regardez les résultats. Est-ce qu'on est content de ça? Non, on n'est pas content.
On a laissé la place aux pays en voie de développement et les pays développés sont en voie de régression finalement.
Non, on n'a pas laissé la place. Et eux ont travaillé et nous on s'est arrêté de travailler. Non.
Et la souveraineté, les questions de souveraineté alimentaire et tout, c'était has-been. L'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Souveraineté énergétique, on crée des centrales nucléaires pour la France, etc. Et puis à un moment, on nous dit, on va faire un grand marché de l'énergie européen. On va se mettre à échanger l'énergie. C'est super, on va libéraliser les marchés de l'énergie. Ça fait 20 ans qu'on le fait. En prenant comme exemple le Royaume-Uni, qui était un très bon exemple parce qu'il avait bien fait sa libéralisation. Avec la libéralisation, les prix devaient baisser. Ils ont augmenté. Ils ont augmenté au Royaume-Uni. Ils ont augmenté en France. D'ailleurs, on a créé des tarifs provisoires pour revenir au prix régulé. 20 ans, finalement, d'usine à gaz fait par des technocrates pour libéraliser les marchés d'énergie. Pour quel résultat? Tutsi, zéro, rien. Voilà.
Donc là, en fait, tu préconises plutôt l'espèce de protectionnisme.
Faut revenir à la De Gaulle. Faut revenir à la De Gaulle.
Planification
énergétique.
Et souveraineté.
Planification
alors.
Du rail. Mais souveraineté, bien sûr.
Et donc, quand
aujourd'hui,
Biden...
quand il y a des médicaments qui sont faits en Inde et qu'on leur demande et qu'ils nous disent non, on veut plus vous les envoyer parce qu'on est en pleine crise du Covid et qu'on demande maintenant aux vétérinaires
donc
d'avoir des
anesthésiens,
il y a un problème.
Mais donc, ça veut dire que quand Joe Biden, il dit, moi, je donne de l'argent à mes entreprises, mais
il a raison.
Seulement les entreprises made in America.
Mais il a raison.
Il a raison. Oui, mais alors, on lui fait la leçon. Non. Macron est parti là-bas pour dire c'est pas bien.
Ouais, il dit oui, on est des amis.
On devrait faire pareil.
Mais bien sûr,
L'Allemagne a fait pareil. Elle a mis 200 milliards sur ses entreprises.
L'Allemagne a fait pareil.
On est les seuls à ne pas le faire.
Nous, on l'a fait avant. On l'a fait avant et depuis on ne le fait plus. Et on dit mais faut pas faire ça, ça se fait pas. On est des amis avec les Américains.
Mais
le Buy American Act, ça existe depuis longtemps.
Mais oui, bien sûr.
Avantager les Américains, alors, ils savent où sont leurs avantages.
Merci, à Michael d'avoir été avec nous. Bonne journée, Michael. Et puis on se retrouvera pour continuer de voir comment on passe l'hiver, Michael.
Ouais, tout à fait. On va suivre ça, mais je le sens de moins en moins bien quand même. Je vous avoue.
Courage.
Salut, Michael, monsieur le maire adjoint. On va aller retrouver Frédéric cette fois-ci dans le Var. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue, Frédéric. Est-ce que vous avez l'impression que la France plonge dans le tiers-monde?
Moi, j'ai cette sensation-là qui me. Franchement, c'est ça qui me fatigue le plus. C'est pas le fait qu'il faut tout le temps se plaindre des gouvernements. Très sincèrement, c'est un héritage. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit sur vous, parce que j'ai pas la télé en marche. Mais c'est un héritage de 30 ou 40 ans. Alors il y a peut-être de la mauvaise gestion, tout ce que vous voulez. Mais le pays, ce qui se passe maintenant, ça peut se passer à d'autres degrés ailleurs. Simplement, si maintenant ils vous disent on va délester, on déleste, ou deux heures. Le problème, c'est que de deux choses l'une, soit tout le monde descend dans la rue, soit alors il y a des collectifs qui se mettent en route et puis un jour on va taper à la porte du gouvernement, on dit mais nous on propose ça, on le fait ou on le fait pas. Mais sinon, si y a un hiver trop rude et que d'un seul coup on vous met à délester, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est on parle pour rien dire. Et dans ces histoires-là, bon, que ce soit là l'énergétique, mais ça a été l'alimentaire aussi. L'alimentaire, on s'est inféodé à la monoculture, à vouloir faire de la culture industrielle. Tant pis. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis bientôt 20 ans, ne font que du circuit court. Je dépense pas beaucoup et j'ai des légumes toute l'année. Mais on choisit. Les gens disent, putain, les pâtes, ça a augmenté. Ben, mange des lentilles. Enfin, je sais pas.
Donc vous dites à chacun aussi de se prendre un peu en main et on peut pas toujours tout attendre de ceux qui nous gouvernent, qui en plus, parfois, ne nous gouvernent pas bien.
Avant la coupure.
Ils nous gouvernent pas bien, mais on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, par là, le matin.
Le nucléaire, on peut malheureusement. Alors, en plus, il n'y a pas eu vraiment une débat pendant la présidentielle. C'est aussi le problème. C'est qu'on fait une présidentielle, on n'a pas abordé les vrais sujets. Finalement, la seule réforme qui avait été annoncée, c'est la retraite. Mais sinon, le reste. Mais le problème, c'est que sur le nucléaire, on subit des choix qui. Alors, c'est vrai que ça a été des choix électoraux aussi, mais c'est difficile quand on est français lambda de peser là-dessus.
On a. C'est peut-être difficile, mais en fait, il y a une auditrice qui avait dit la guerre en Ukraine a un peu bon dos. Enfin, il y a peut-être d'autres fournisseurs en termes d'énergie. Peut-être qu'il y avait peut-être d'autres partenariats à faire. Il y avait on peut pas être comme être un pays comme ça qui se rend dépendant de tout. Et au final, maintenant, on va se lever avec un ongle incarné le matin, on va se demander ce que fait le gouvernement. Il faut s'arrêter parce que sinon.
C'est l'État qui doit tout gérer.
Mais on est moins dépendant que d'autres pays.
Moi, je pose une question. Frédéric.
Le coup de gueule de Frédéric, c'est lui qui aura conclu notre discussion. Merci Frédéric, à bientôt, bonne journée et on vous retrouvera vous aussi au 32-16. Est-ce que la France se tiers-mondialise? C'est la question qu'on a posée. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de doutes sur la réponse. 90% d'entre vous estiment que oui, la France est en train de se tiers-mondialiser ou de se tiers-mondiser.
Est-ce que je peux dire un truc? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander, et c'est vraiment une question que je me pose à haute voix en écoutant Frédéric, de faire des procédures contre l'État pour mise en danger délibérée de nos vies, en fait. Quand tu n'as plus accès à la nourriture, quand tu n'as plus accès à l'énergie,
sans
quand tu n'as plus accès
mots,
à l'école...
Tu rentres dans une usine à gaz. Sans mauvais jeu de mots. Ça sert strictement à rien à part à faire...
Pas forcément.
At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.